Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, l'hypophosphatémie VLX ou XLH. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Agnès Linglard. Professeur Linglard, bonjour.
Bonjour.
Professeur Linglard, vous êtes pédiatre, professeur des universités à la faculté de médecine de Paris-Saclay et praticien hospitalier, chef du service d'endocrinologie et diabète de l'enfant à l'hôpital Bicêtre Paris-Saclay au Kremlin-Bicêtre. Vous coordonnez pour la partie pédiatrique le Centre national de référence des maladies rares du métabolisme du calcium et du phosphate de la filière Oscar et vous coordonnez un groupe de recherche également qui travaille sur ces pathologies rares. Alors, professeur Linglard, ma première question est très simple. On aborde aujourd'hui l'hypophosphatémie VLX ou XLH. Pourriez-vous nous présenter rapidement cette pathologie ?
Alors, l'hypophosphatémie VLX, c'est une maladie rare, puisqu'on estime qu'elle touche à peu près environ 30 à 40 nouveau-nés qui vont naître avec cette maladie tous les ans et que ça représente environ 1500 à 2000 patients en France aujourd'hui. Et donc, c'est une maladie qui est une maladie génétique, qui est causée par des mutations dans un gène qui s'appelle FEX, qui est localisé sur le chromosome X. Et on retrouve ces mutations chez à peu près 90% des patients, donc vraiment une grande majorité. C'est une maladie qui, malheureusement, est diagnostiquée un peu trop tard pour nous, puisqu'on a un délai diagnostique qui est de 2 à 3 ans après l'apparition des premiers signes. Donc, on a besoin d'améliorer la connaissance de cette maladie rare. Alors, c'est quoi les conséquences de cette mutation de ce gène ? La mutation de ce gène FEX va entraîner la production d'une hormone qui s'appelle FGF23 en trop grande quantité. Et il va y avoir deux conséquences principales à ces taux élevés de FGF23. La première, c'est que le rein devient incapable de retenir le phosphore et qu'il y a ce qu'on appelle une fuite rénale de phosphore. Et donc, une baisse des taux de phosphore dans le sang, une hypophosphatémie. Et la deuxième conséquence, c'est que le rein devient incapable de produire la forme active de la vitamine D. L'hypophosphatémie et l'absence de forme active de la vitamine D vont avoir des conséquences essentiellement osseuses, avec un défaut de minéralisation de la plaque de croissance, mais aussi de tous les tissus durs, comme la dent et le squelette.
Et quelles sont les principales manifestations cliniques de l'XLH, notamment chez l'enfant ?
Chez l'enfant, les signes cliniques, on vient de parler de la physiopathologie, les signes cliniques, ils sont vraiment orientés sur le squelette. Et c'est des conséquences du défaut de minéralisation. Chez l'enfant, la maladie, ça s'appelle vraiment, la manifestation principale, c'est le rachitisme. Le rachitisme, il y a trois signes principaux. Le premier, c'est une déformation des jambes sous l'effet du poids. Donc, ça peut être des jambes en génuvarum ou des jambes en génuvalgum. La deuxième, c'est une hypertrophie des plaques de croissance par une désorganisation complète du cartilage de croissance. Donc, c'est au niveau des poignets, des chevilles ou des côtes. Et la troisième, c'est le retard de croissance. Au-delà de ces symptômes qui touchent primitivement le squelette, il y a aussi d'autres signes qui sont très variés, qui touchent beaucoup d'organes différents. On va avoir des abcès dentaires, une craniosténose, un déficit musculaire, et tout cela peut aboutir à un handicap qui peut être de sévérité variable, mais parfois très important.
Alors, des symptômes qui peuvent, j'imagine, être présents dans d'autres pathologies. Quels sont les diagnostics différentiels à écarter et les bilans à réaliser pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une XLH et pas d'une autre maladie ?
Vous avez raison. Avant de poser le diagnostic d'hypophosphatémie VLX, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je ne suis pas devant un autre type de rachitisme qui est beaucoup plus fréquent ? Et donc, tout de suite, on pense à quoi ? On pense au rachitisme par carence en vitamine D. Donc, ça, c'est vraiment la première question à se poser. Il faut évoquer le diagnostic de XLH quand on est devant un enfant qui a un rachitisme qui finalement ne va pas, on lui donne de la vitamine D, il ne guérit pas sous vitamine D. C'est ce qu'on appelle un rachitisme résistant à la vitamine D. Et puis ensuite, il faut quand même savoir que dans ces rachitismes résistants ou qui sont des rachitismes génétiques, la grande majorité sont des hypophosphatémies liées à l'X. Après, devant les autres signes, on pourrait aussi évoquer d'autres diagnostics. Un enfant qui se présente avec une déformation des membres inférieurs, on va utiliser un marqueur comme les phosphatases alcalines pour éliminer d'autres diagnostics comme l'hypophosphatasie ou les anomalies qui touchent primitivement l'os. Et ensuite, on peut aussi avoir tous les diagnostics différentiels du retard de croissance ou de la craniosténose, des douleurs osseuses, etc. Donc, il faut vraiment avoir une vue globale de l'enfant devant ce diagnostic. Alors, quel bilan il faudrait faire pour poser un diagnostic et éliminer en même temps les diagnostics différentiels ? D'abord, il faut faire une enquête familiale, c'est une enquête clinique d'interrogatoire. Il faut faire des radiographies pour affirmer le diagnostic de rachitisme. Et puis, un bilan vraiment de base avec des phosphatases alcalines, un dosage de calcium, de phosphore, de vitamine D et de parathormones permet d'éliminer toutes les autres causes de rachitisme et de montrer la fuite de phosphore. Les bilans de deuxième intention vont être réservés aux équipes d'experts et je ne crois pas que ça soit le lieu de le détailler ici.
Alors, une fois le diagnostic posé, quelle prise en charge peut-on proposer aujourd'hui aux enfants atteints d'hypophosphatémie liée à l'X ?
Alors, je dirais là que la prise en charge, elle doit avoir deux objectifs. Le premier, c'est d'évaluer la sévérité de la maladie et l'étendue des atteintes. Et le deuxième, c'est d'organiser et de mettre en place la prise en charge multidisciplinaire. Donc, sur l'évaluation de la sévérité et de ces atteintes, c'est vraiment évaluer l'importance des déformations osseuses. Est-ce que l'enfant est capable de marcher ou de courir? Quelle est l'importance de son atteinte dentaire? On aurait besoin également, il faudrait presque à ce moment-là évaluer sa qualité de vie pour avoir des marqueurs objectifs de retentissement de la maladie. Et puis, en parallèle, il faut vraiment mettre en place le traitement de cette maladie qui fait appel à des médicaments, soit on utilise une association de suppléments de phosphore et de vitamine D active pour finalement compenser ce que le rein n'arrive plus à faire. Soit on a une autre stratégie thérapeutique qui peut être de contrecarrer cet excès de FGF23 par des anticorps anti-FGF23. En parallèle de ces médicaments, il faut absolument mettre en place un support multidisciplinaire, une aide à la scolarité, une prise en charge à 100% de la maladie, un contact avec la MDPH, donner les liens avec pour un contact avec l'association de patients. Et puis, faire appel à nos collègues pour toutes les spécialités qui peuvent être impliquées, les dentistes, la diététicienne, les psychologues, les neurochirurgiens, les rhumatologues.
Alors, on aborde la dernière question, professeur Linglard. Vous avez évoqué la prise en charge multidisciplinaire de cette pathologie. Quelle est l'importance, à vos yeux, d'adresser ces jeunes patients à un réseau de centres experts ?
Alors, c'est à mon avis, c'est vraiment quelque chose de primordial et qui a été développé depuis 2007, depuis qu'on a été créé le centre de référence des maladies rares du calcium et du phosphate, grâce à la succession des différents plans nationaux maladies rares. Et donc, l'idée, c'était vraiment de créer un réseau de centres experts qui permet de faire un maillage sur tout le territoire français pour que les patients trouvent à proximité, alors c'est pas toujours à la porte même, mais pas très loin de chez eux, non pas un expert, mais une équipe d'experts qui soient capables de prendre en charge leur maladie. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que le diagnostic, plus il est fait précocement, meilleurs sont les résultats de la prise en charge. C'est important parce qu'il est primordial de ne pas se sentir isolé avec sa maladie, parce que l'enfant doit être vu dans son ensemble et dans sa globalité par une équipe multidisciplinaire, parce qu'il faut lui donner un accès à de l'éducation thérapeutique, parce que les patients doivent se former eux-mêmes à leur maladie. Et le dernier point, c'est parce qu'on avance tous les jours sur la connaissance de la maladie, le développement de nouvelles thérapeutiques, et que ces équipes d'experts doivent donner l'information et donner accès à ces traitements pour les patients. Donc, moi, je dirais que les trois mots-clés qu'il faudrait retenir pour cet épisode, ça serait pour le XLH, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner, d'être multidisciplinaire et de former à la fois les patients et les professionnels de santé.
Eh bien, merci infiniment, professeur Linglard, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'hypophosphatémie liée à l'X. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur l'hypophosphatémie liée à l'X, chez l'adulte cette fois, avec le point de vue du rhumatologue. À très vite.